voilà, comme promis, nous accueillons Olivier Sélarié, que j'ai toujours un grand, grand plaisir de retrouver dans nos studios. Bonjour Olivier.
Bonjour René, bonjour à tous et merci de me recevoir.
Voilà, alors j'allais dire encore vivant après cette période-là qui n'est est encore compliquée.
Hein. Oui, toujours masqué. Ouais, on revient masqué. Dans une période encore plus compliquée, ouais, ouais, qui s'était légèrement détendue pour l'exposition Colors, tu sais, qu'on avait présenté au Tripostal ce printemps, cet été, cet automne, qui a eu au final un très grand succès, puisqu'on a accueilli plus de 100 000 visiteurs quand même, mais bon, sur une très longue période. Et on a vu surtout les visiteurs revenir en septembre-octobre, parce que c'est vrai que le lancement, à partir du 19 mai et jusqu'à la fin de l'été, c'était un peu compliqué avec les passes sanitaires, un système de déambulation dans l'exposition qui ne permettait pas de revenir sur ses pas. Enfin bon, Donc on avait appliqué des consignes strictes pour éviter, en effet, le croisement des publics. Et heureusement, au mois de septembre, on a pu remettre en place le cheminement habituel, réouvrir le bar, la boutique, et donc ce qui a fait que le Tripostal a revécu un grand moment. Et avec cette magnifique exposition, ça a été vraiment une grande joie de retrouver le public. Mais bon,
c'est vrai que j'ai eu la chance de la visiter de fond en comble, on peut dire ça, au départ. Hein, et j'y ai pris beaucoup d'intérêt, bien sûr, mais aussi beaucoup de sons que j'ai diffusés ici, au travers de plusieurs reportages. Et vraiment un beau moment que j'ai passé avec on va dire tous les artistes qui présentaient un peu leur travail et leurs œuvres, bien sûr. Hein, voilà. Donc, même des choses un petit peu qui étaient dedans sans être dedans, notamment cette exposition à l'Hospice Comtesse d'artistes designers chinois.
Tout à fait.
Et qui était vraiment intéressante. En plus, je pense que j'étais le seul à avoir un parcours qui a été présenté complètement en son et qui a pu être diffusé donc ici et qui est encore en ligne là. Mais je pense que c'était une occasion assez unique d'avoir quelqu'un qui savait de quoi il parlait sur la Chine, c'est souvent rare.
Tu es spécialiste, toi.
Oui, mais je veux dire, quand on a des spécialistes d'autre chose que ce que moi je peux en connaître, c'est toujours intéressant de les mettre en proposition du public comme des gens qui sont capables d'expliquer les choses. Parce que j'entends trop de personnes qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Voilà. Donc là, c'est l'occasion d'avoir des personnes qui ont cette connaissance et cette compétence. Donc, tout ça pour dire que malgré tout ce qu'on peut imaginer du monde au travers de ce qu'on en entend, on peut aussi admettre qu'on puisse se projeter dans un monde compliqué, dans un monde imbriqué, dans un monde complexe et dont on ne sait pas trop l'avenir. On peut quand même se projeter dans des utopies. Et donc le thème utopia, c'est la prochaine grande manifestation de l'île 3000, comme on en connaît a priori tous les deux ans, c'est ça?
Tout à fait. En fait, ce sera la sixième édition depuis 2006. Vous vous souvenez, tu te souviens bien sûr de Bon Baiser de Lille et des autres éditions, dont la dernière s'appelait Eldorado et qui a eu lieu en 2019. Donc c'était au printemps 2019. Et donc voilà, on se retrouve, j'espère, en 2022, au printemps aussi, puisqu'on commencerait notre grande édition qui s'appellera Utopia par une grande parade, une grande fête d'ouverture. On croise les doigts, hein, bien sûr, je parle vraiment au conditionnel et en fonction des circonstances sanitaires de futur, mais voilà, c'est une utopie, c'est une espérance et de pouvoir se retrouver tous dans la rue pour une grande fête qui serait un peu différente des grandes manifestations, des grandes fêtes qu'on a faites jusqu'à présent. C'est une fête qui commencerait le midi. Et qui permettrait à tous les publics, dont les plus petits d'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence plus tôt, à déjà appréhender des univers d'artistes un peu différents qui seront présentés tout au long de cette journée du 14 mai prochain, donc 14 mai 2022, dans le centre-ville de Lille, dans au Square Foch et du Tilleul, sur la Grand Place, au Parc Matisse. Et dans d'autres lieux, il y aurait des animations, des rencontres et puis des petits ateliers dans l'après-midi, des dégustations, des programmations musicales, enfin toute une animation avant la grande parade qui commencerait en fin de journée, sans doute vers 19-20 heures, pour aller du Champ de Mars jusqu'au Parc Matisse avec un grand final au Parc Matisse, sans doute pyrotechnique, enfin avec des propositions complètement innovantes et différentes de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent.
Voilà, un grand opening.
Voilà. Et puis, alors, je suis rentré dans le vif du sujet.
Oui, mais justement, alors, je voulais dire qu'il y a énormément de partenaires à cette série d'événements et qui sont structurés autour d'un thème, on va dire ça comme ça. Et que cette année, on peut dire que pratiquement toute la mêle s'en mêle.
Tout à fait. En fait, comme tu le sais, il y a 95 communes dans la métropole européenne de Lille. Et en fait, toutes les communes de la métropole se sont manifestées pour faire des manifestations de plus ou moins grande envergure. Donc, des villes comme Roubaix mettent en effet en avant tous leurs équipements culturels, mais aussi des associations qui participent sur des thématiques spécifiques en lien avec Utopia, directement ou indirectement. Et les plus petites communes aussi, il y aura des débats, des rencontres, et puis surtout des moments festifs, des déambulations. Une nouveauté sur cette édition, ce sont des week-ends thématiques de randonnée pédestre ou en vélo, essentiellement en mode doux, des randonnées thématiques qu'on va appeler les CAP et qui seront en fait des destinations géographiques précises qui mettront en avant des endroits de la métropole et aussi des Hauts-de-France, parce qu'on parle de la métropole, mais
on va y parler, on va y venir.
Les Hauts-de-France. La ville de Lille, bien sûr, au premier lieu, puisque c'est quand même la capitale des Hauts-de-France. Ce qu'on appelle les CAD, donc des randonnées artistiques, qui nous feront découvrir ces espaces méconnus un peu partout. Donc ça va être le moyen d'aborder la thématique Utopia, qui pour nous prend un sens un peu plus de ressourcement ou de retour de l'homme en lien avec la nature. C'est de prendre conscience qu'on est dans un environnement non pas seuls les humains et que le reste n'a pas d'importance ou peu d'importance. Et en fait, c'est pas du tout le cas, bien sûr, comme on le sait tous maintenant, enfin tous, beaucoup de monde, et surtout les artistes auxquels on fait appel pour mettre en avant cette thématique, cette prise de conscience, ou remettre les points sur les i, on va dire. C'est ça qui est important dans cette thématique.
Donc, je vois une affiche bien verte, là. C'est un signe.
Alors, ça ne veut pas dire que qu'on va parler que de verdure, mais on va parler, bien sûr, d'environnement, mais aussi des usages de tout à chacun, d'utilité pour réduire notre empreinte carbone, les coûts d'utilisation des matériaux, changer nos habitudes et mettre tout ça en perspective. Voilà, c'est ça qui nous paraît important, et surtout faire en sorte que les artistes s'expriment sur ce sujet. C'est une manière aussi.
Alors, si on fait un petit peu le retour en arrière, moi, j'ai connu Lille 2006, capitale culturelle européenne.
2004,
capitale culturelle européenne.
Oui. Hein.
Et donc, à l'époque, j'étais allé à la conférence de presse de démarrage de Lille 2004. Hein, et que donc, Martine Aubry, à l'époque, avait exprimé aux journalistes qui étaient sceptiques, hein, je me souviens au départ, qu'elle allait intégrer régulièrement des propositions artistiques dans le cadre de grands événements. Et pour finir, tous les deux ans, après, ça a maintenu le cap, avec un élargissement du public des villes partenaires. Et puis là, on va parler peut-être un peu des autres départements, si tu le veux bien.
Alors, des autres départements, en fait, nous, on travaille surtout dans le Nord, hein, bien sûr, mais dans le cadre des projets participatifs, dont principalement le projet avec les musicaux, En fait, on a commandé des partitions de musicales à trois auteurs régionaux sur la thématique Utopia. Donc, il y en a une qui s'appelle Utopia, tout simplement, une qui s'appelle Uphonie, et la troisième est un conte pour enfants qui s'appelle La Cité des Dodos. Et ce qui permettra aux harmonies, aux fanfares et aux écoles de musique, aux petites et moyennes formations, de participer au projet en faisant des concerts dans toute la région des Hauts-de-France. Et au jour d'aujourd'hui, on a plus de 250 inscriptions pour avoir des partitions, parce que c'est nous qui produisons les partitions et distribuons aux formations qui le souhaitent, et pour aussi faire en sorte que ces partitions soient jouées pour le grand public. Et donc, il y ait toute une série de concerts dans les Hauts-de-France, sur l'ensemble du territoire, mais aussi, par exemple, pour la parade d'ouverture, on va inviter plusieurs harmonies ou fanfares à participer à la grande parade d'ouverture du 14 mai. Donc ça, c'est un projet participatif assez important, c'est assez... en matière de logistique et de sensibilisation, c'est assez, assez important.
Alors, j'avais invité, il y a trois semaines, si ma mémoire est bonne, des représentants de l'harmonie de l'île Five.
Ouais.
Et donc, évidemment, la connexion aussi avec les harmonies du bassin minier, puisque là, il y a vraiment un beau réseau aussi, effectivement importante et va sans doute donner ses fruits. Hein. Sachant que l'ancien directeur qui est décédé avait déjà beaucoup d'idées sur la chose.
Hein. Hervé Brice.
Hervé
Brice était exceptionnel. Il nous avait accompagnés sur plusieurs éditions de l'île 3000 et particulièrement sur la dernière Utopia, justement dans ce projet de sensibilisation des publics et qui sont très attachés à la musique régionale, a développé un réseau de plus en plus important. Et c'est Laura Bouclet, co-directrice de l'époque, qui travaillait avec Hervé Brice, qui a repris le flambeau et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré pour ce projet et pour faire en sorte, en effet, que la plus grande majorité des harmonies, des fanfares et des écoles de musique soient sensibilisées dans cette thématique et puisse se programmer, enfin se diffuser lors de concerts, de rencontres, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Et l'harmonie de Five, bien sûr, est une des harmonies les plus dynamiques dans ce registre.
Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on parle souvent d'événements élitistes à Lille, mais il y a aussi un côté populaire qui compense, c'est-à-dire qui est en phase. On ne peut pas complètement cloisonner les choses. Et donc, les nombreux musiciens qui participent à l'activité des harmonies, bon, ce sont des gens assez fantastiques hein, et qui apportent des univers dans les villages, etc., qui créent de l'ambiance et qui aussi, par rapport à des jeunes, hein, les met en situation de réussir dans des endroits où ils ne sont pas forcément... bon, par exemple, si à l'école, ils ne sont pas toujours top, mais ils peuvent quand même jouer de la musique de qualité et c'est parfois un point d'appui pour redémarrer une vie.
Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment... Mais ça fait de nombreuses années, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop cette facette du côté de participatif et sensibilisation des publics, des jeunes publics, de l'île 3000. Mais on fait à nombreuses occasions et surtout sur un projet global de développement avec l'éducation nationale, une sensibilisation dans les écoles et une grosse participation, puisque cette année encore, les écoles primaires de Lille travaillent déjà actuellement sur le projet Utopia pour faire ce qu'on appelle une restitution, qui sera en fait une exposition qui sera présentée à la gare Saint-Sauveur à partir du mois de mai, avec l'ensemble, enfin, pas l'ensemble, parce qu'il y a toujours une très, très grosse production, mais une grande partie de la production des enfants, des écoles, Et c'est un moyen pour l'éducation nationale aussi de faire participer ces jeunes sur une thématique qui n'est pas forcément à leur portée au départ. Alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'au contraire, ce qu'on peut faire et ce que les artistes font sont hyper accessibles à l'ensemble du public. Et ce qu'on dit être une culture élitiste, et en fait, on s'aperçoit quand on travaille un petit peu auprès de ces artistes et avec l'ensemble des organisateurs, avec l'éducation nationale, les associations, etc., que au contraire, les enfants, les jeunes et moins jeunes, les associations qui participent sont vraiment hyper dynamiques sur ce sujet et sont très productrice aussi d'objets sur ce thème-là.
J'imagine aussi, on retrouve un petit peu cette ambiance, cet esprit du plaisir de jouer à l'Orchestre National de Lille avec ces petits mômes-là qui apprennent
tout
aussi,
à fait,
qui jouent.
Il y a le plan musique.
Ouais, et puis il y a aussi l'opéra, qui a des petites classes là, sympas, et où tout ça, ça fait vivre l'art, on va dire, d'une façon plus accessible que peut-être après, quand les gens sont adultes. Et l'idée, c'est bien sûr qu'ils ne s'en détachent pas complètement.
Tout à fait.
Donc voilà, on a bien compris que pour ce grand événement qui aura lieu, on le rappelle, à partir du
14 mai
jusqu'au
2 octobre.
2 octobre. Il y a plein de projets qui ont déjà été, on va dire, envoyés à Lille 3000, puisqu'il y a eu un genre d'appel à projet, on peut peut-être dire ça. Donc, est-ce que le programme est complètement bouclé? Est-ce que vous cherchez encore des partenaires ou des participants qui ont des projets originaux?
Bon, on a alors le programme, il est pratiquement bouclé, on va dire, dans les grandes lignes. Mais bien sûr, il y a beaucoup de par exemple pour les CAP, on va faire appel à de nombreuses associations régionales pour participer, travailler avec nous. Et puis aussi, je voulais parler des ateliers qu'on met en place là à partir du 13 décembre prochain. En fait, ce sont des ateliers qui permettront de former des animateurs d'autres ateliers, en fait, de passer, en fait, si tu veux, une certaine technique aux enfants. Donc, ça peut être des enseignants, ça peut être des responsables d'associations ou des animateurs d'associations qui seront formés par des marionnettistes de la région pour fabriquer comment on va les appeler ? Nous, on les appelle les nanitos. Et ce sont des sortes de petites statuettes qui seront en fait à l'image de ce que réalise un artiste qui s'appelle Jean-François Fourtou, qui présentera ces petites statuettes originales à l'Hospice Comtesse et dans le jardin de l'Hospice Comtesse. Et à la manière de, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2019, on avait fait ça avec les Alébrires, tu sais, ces grandes statues qui étaient rue Federme. Mm-hmm. On avait créé des ateliers et formé des formateurs, c'est ça le terme, pour qu'ils puissent diffuser dans toute la région leur savoir et faire en sorte que les écoles, les associations, etc., puissent fabriquer des petits alébrires. Donc là, on recommence l'opération de manière plus importante encore sur le thème donc des anitos. Ce sont des petits personnages à tête de légumes. Ça peut être leur tête ressemblera à des citrouilles, à des courgettes, à des concombres, que sais-je, selon l'imagination des créateurs. Et pour en faire des petites interventions un peu partout dans la métropole et dans les Hauts-de-France. Et donc ces ateliers sont destinés donc à former des formateurs. Je vous invite à ceux qui sont intéressés à vous inscrire au plus vite parce que il reste encore des places pour cette session qui va commencer le 13 décembre jusque vers le 20-22 décembre à peu près. Et ça se passera au Tripostal de Lille.
Voilà, pour s'inscrire, on fait comment ?
Le site internet de Lille 3000. Sinon, il y a une adresse mail, c'est atelier au pluriel tiré utopia @lille3000.com.
D'accord, voilà. C'est bien noté.
Très important.
Voilà, donc
parce que donc juste pour finir, excuse-moi, sur ce sujet, en fait, ce que je disais tout à l'heure, les projets participatifs permettent à toute la population de la métropole des Hauts-de-France de vraiment s'engager dans un projet collectif. Il y aura aussi d'autres ateliers, par exemple pour la parade, parce qu'on va faire appel à d'autres personnes pour participer directement, faire des chorégraphies ou faire des costumes avec un styliste qui est assez original, qui travaille qu'avec des objets de récupération qui viennent de l'électricité, donc des morceaux de câbles, des morceaux de micro, de je ne sais pas quoi. Là, je regarde ce qu'il y a autour de moi, de fil, etc. Enfin, il fait des costumes absolument extraordinaires. Bon, c'est assez incroyable.
On va lui donner des fonds de stock.
Voilà, c'est ça. Et du coup, on va faire des ateliers comme ça. Puis on a invité aussi une artiste qui s'appelle Joana Vasconcelos, qui est une artiste portugaise qui va faire une gigantesque œuvre dans la gare Lille-Flandre et qui va s'appeler la Valkyrie, une Valkyrie. Et pour ce faire, en fait, elle utilise aussi beaucoup de matériaux comme de la laine ou de la broderie. Et donc, on va faire appel à tous les bonnes volontés qui aiment coudre, broder et tricoter pour fabriquer cette œuvre qui serait une œuvre collective. Mmh. Enfin, voilà, on a plein de sujets comme ça. Et on regarde des grandes expositions au Tripostal, au Palais des Beaux-Arts, à la gare Saint-Sauveur, à l'Hospice Comtesse, etc. Il y a ces métamorphoses urbaines, ces projets participatifs, et puis toutes ces des dizaines d'expositions dans des lieux qui sont moins connus, mais qui sont tout aussi intéressants avec des jeunes artistes, enfin des jeunes ou moins jeunes artistes, enfin des artistes qui viennent un peu des quatre coins de France et d'Europe pour s'exprimer sur le sujet.
Alors, si on refait un petit peu le bilan très rapide hein, de Lille 2004, il y a eu à un moment donné la mise en place de ces lieux qu'on a appelés les maisons folies. Et ces maisons folies, elles existent encore, elles fonctionnent. Il y a beaucoup d'animations. Je pense, par exemple, ici, on a à Villeneuve-d'Ascq la ferme d'en haut, mais il y en a plein un peu partout. Hein. Donc voilà, ça fait partie de l'héritage maintenant.
Tout à fait. On travaille encore beaucoup, parce que là, par exemple, pour Utopia, toutes les maisons folies de la métropole vont participer, bien sûr. Nous, on connaît très bien la maison folie de Moulins et celle de Oisem, dans lesquelles on va faire, Lille 3000, une des expositions en direct, qui vont s'appeler le Jardin d'Éden, avec la même commissaire qui a fait justement l'exposition Colors au Tripostal. Mmh. Et ces maisons folies sont toujours hyper actives. Elles ont une programmation incroyable qui dure toute l'année et qui dure depuis 2004. Et donc ça, c'est vraiment pour nous très important de continuer à garder le lien avec ces maisons folies.
Voilà, donc des lieux qui ont un peu structuré le territoire. Et donc maintenant, il y a tout ce maillage des villes partenaires et des personnes ressources. Hein. Je pense que ça fait du monde.
Oui, on projette. Tu sais, sur Eldorado, on avait 2400 événements la saison. Et là, on n'est pas loin des 2000, je crois. Mmh. Donc, et encore, on n'a pas répertorié l'ensemble. Voilà.
Donc c'est vrai que vous êtes une équipe, je vais dire, qui est pas forcément extensible. Vous jonglez avec tout ça pour, on va dire, que tout se passe bien.
On est une petite équipe, on est une dizaine permanents, une équipe à géométrie variable en fonction des projets que l'on développe. Mmh. Bien sûr, là, sur un gros projet comme Utopia, on a déjà pas mal de monde qui nous a rejoints dans l'aventure, et c'est ça qui est stimulant aussi, c'est de travailler avec des gens qui viennent de tous horizons, qui ont des formations différentes et qui enrichissent justement cette vision du travail qu'on peut développer sur ces thématiques. Et ça concerne tous les services. Ça peut être, bien sûr, pour moi, la communication, les relations publiques, la presse, le marketing, la médiation. Mais aussi la production, la technique, l'artistique, l'administration, et puis tous les constructeurs qui nous accompagnent, les régisseurs. Enfin, ça nécessite une organisation vraiment rigoureuse et très importante. Et ça concerne énormément de monde. Au final, c'est une véritable PME quoi, qui se développe et qui se crée, et c'est vraiment très intéressant. Alors,
de notre côté, au niveau des radios associatives de la région, hein, Radio Campus participe chaque année, enfin tous les 2 ans, là, à vos événements, au travers de plateaux qu'on organise avec la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Donc, je pense que cette année, on va prendre rendez-vous également. On aura aussi l'occasion, Olivier Sélarié, de se revoir pour un point d'actu, quand tu sens que tout est calé.
Tout à fait, parce que là, c'est vrai que bon, je rentre pas trop dans les détails, parce que on a fait ce premier point de présentation la semaine dernière à l'ensemble de nos partenaires et surtout à la presse, pour que le sujet soit un peu connu du grand public, mais il y a encore beaucoup de travail pour finaliser tout ça. Et donc j'espère en effet que tu m'inviteras à nouveau pour que j'en parle plus précisément.
Voilà, donc rendez-vous aussi sur le site de l'île 3000 pour voir l'évolution du projet, ce qui est déjà en présentation. Hein. Et puis restez à l'écoute de nos radios. Et puis à bientôt, au plaisir de te réinviter, Olivier Sélarié. Merci.
Merci beaucoup, René. À très bientôt, j'espère.